Ainsi donc, frères et sœurs, nous voici à mi-chemin dans notre temps de carême avant les festivités, la solennité de Pâques. Et ce quatrième dimanche de carême est celui de la joie. Du reste, c'est ce que proclame l'antienne « Réjouis-toi, Jérusalem ». En effet, l'Évangile nous raconte l'épisode de l'aveugle-né qui retrouve la joie grâce à sa guérison effectuée par Jésus. Et nous le savons, la joie est souvent associée à la lumière. Du reste, il suffit de contempler notre si belle église Notre-Dame de la Couture. Beaucoup d'éléments, les vitraux, statuaires, sculptures, objets, expriment à la fois la lumière et la beauté. Dans la liturgie de ce jour, l'obscurité est signifiée de différentes façons. Bien entendu, il y a la situation de cet homme, sa cécité. Il est aveugle depuis son enfance. Aveuglement physique. Mais nous voyons bien que, à travers toute la liturgie d'aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est la cécité spirituelle, la cécité intérieure. Et à cet instant, nous comprenons le mot de saint Paul. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenu lumière. Réveille-toi, ô toi qui dors, et le Christ t'illuminera. Nous le savons, frères et sœurs, ce mot de saint Paul est la citation d'un des premiers cantiques chrétiens, ce qui se chantait dans les premières communautés chrétiennes. Le Christ est le soleil levant. Et nous comprenons la raison pour laquelle nos églises, cathédrales, sont orientées vers l'Orient. Et c'est le dire le soleil levant. Et c'est la raison pour laquelle, sur le toit de nos églises, il y a le coq qui symbolise le peuple chrétien. Réveille-toi, ô toi qui dors, le Christ t'illuminera. Alors, afin de mieux intérioriser, nous avons trois passages à méditer ensemble. Tout d'abord, dans la première lecture, il y a le récit de l'onction de la ville comme roi d'Israël. L'histoire peut paraître surprenante dans un premier abord. En fait, nous eussions pu croire que le prophète aurait d'abord choisi comme futur roi le plus robuste, le plus solide, le plus costaud. Mais voici au contraire que le Seigneur, par son esprit, fait comprendre à Samuel « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille. » Les critères de la vision physique ne peuvent pas suffire pour prendre une décision ou faire un choix. Il faut une vision profonde, intérieure, spirituelle. Et voici que Dieu, par son prophète, affirme « Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Et c'est tout le sens du geste que nous avons vécu en début de célébration avec nos frères et sœurs catéchumènes. Nous appelons cette étape le scrutin. Pourquoi ? Parce que le Seigneur scrute nos cœurs. Il voit ce qu'il y a dans le cœur de chacune et de chacun d'entre nous. Et nous pouvons nous souvenir du mot si beau du livre majeur d'un de nos grands écrivains. L'essentiel est invisible aux yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ce qui signifie que nous devons les uns les autres, comme jadis le roi Salomon, demander une grâce, celle du discernement, comme l'étymologie l'indique, passer des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire cette claire vision intérieure qui permet, dans les choix les plus essentiels de notre vie, comme dans les événements les plus quotidiens et anodins, choisir dans la pleine lumière et non pas avec les seules apparences. Et là, nous percevons toute l'invitation à la conversion que suggère l'Évangile d'aujourd'hui. En effet, nous voyons bien que nous passons progressivement de la cécité physique à la cécité intérieure. Reprenons le texte. L'épisode commence par une demande des disciples à propos de ce malheureux. Pourquoi est-il aveugle? Qui a commis un péché? C'est lui, ses parents? Et la réponse de Jésus est très nette et très importante. Ni lui, ni ses parents. Ce qui veut dire que Jésus nous rappelle que le malheur n'est jamais, jamais une punition de Dieu. Et ce que Jésus précise au contraire, c'est que Dieu, au cœur de la souffrance, veut apporter du soulagement. Dans la suite du récit, Jésus fait un geste qui peut paraître, de prime abord, extrêmement surprenant. En effet, il crache par terre et avec sa salive et avec la poussière, il fait de la boue. Cela nous fait penser, bien entendu, au récit de la création dans le livre de la Genèse. Et donc, Jésus, par ce geste, recrée. Et là, nous voyons bien, frères et sœurs, que nous avons la préfiguration de ce que sera la résurrection. D'autant que Jésus envoie cet homme à la piscine de Siloé. Et en hébreu, Siloé veut dire « envoyer ». Et nous comprenons qu'il faut se laver dans la piscine de l'envoyé. Et c'est devant nous le mystère pascal qui se profile. Qu'est-ce que le baptême? Le mot même, là encore, l'étymologie signifie « plonger ». Plonger dans la mort et la résurrection du Christ, être lavé de son péché, retrouver l'acuité spirituelle. Acuité spirituelle qui avait été perdue à cause du péché. Et là, nous en arrivons au dialogue si important entre Jésus et les pharisiens. En effet, reconnaître que l'on est aveugle et désirer au plus profond de son cœur sa guérison, c'est cela, la conversion. Et voici que devant lui, pour dialoguer, il a des hommes qui pensent qu'ils sont du côté des justes et dénoncent les fautes et les péchés des autres et ne se remettent pas en cause. Et frères et sœurs, notons bien que le pharisaïsme, si nous n'y prenons pas garde, pourrait être dans notre cœur, aptitude à juger les autres et ne plus se remettre en cause. Quel aveuglement sur soi-même. Et le temps du carême, c'est tout l'inverse. Avec la grâce de Dieu, demander au Seigneur de laver nos fautes et de donner la vision juste sur nous-mêmes et sur les autres. Et là, nous en arrivons, bien entendu, à la seconde lecture. Paul nous parle de la lumière spirituelle. Et son propos est comme un prolongement de l'Évangile. Il dit qu'il ne suffit pas de recevoir la lumière, il faut soi-même devenir lumière. Et du reste, c'est ce que Jésus, souvenons-nous, disait à ses disciples. Vous êtes la lumière du monde. Alors, frères et sœurs, imaginons à cet instant que quelqu'un qui n'a aucune culture chrétienne ouvre la porte et entende cette phrase. Il dira, mais les chrétiens sont fous. Ils se prennent pour la lumière du monde. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le devoir du chrétien n'est pas simplement d'accueillir la lumière du baptême, mais c'est de comprendre qu'il y a une obligation, vivre en enfant de lumière. C'est la raison pour laquelle Paul dit « Vivez comme des enfants de lumière ». Or, la lumière produit tout ce qui est bonté, justice, vérité. Frères et sœurs, cela nous invite à désirer ardemment la lumière spirituelle. C'est un grand poète anglais, David Calscon, qui écrivait « Établis-toi véhémentement dans la sublimité de ton regard. » Ce qui veut dire que toute la vérité de notre cœur, de notre être, doit résider dans notre regard et que la lumière ne peut venir que du Christ lui-même.